Et si nos petites histoires racontaient la grande histoire?
Moi j'appelle ça une anecdote, et c'est une anecdote au regard de l'histoire. Mais dans la vie de cet homme, c'est pas une anecdote.
À la fin de la nuit, vers 7h du matin, je lui ai raconté mon histoire.
Et de ce jour-là, ma vie a basculé.
Et il a dit, mais Joachim, c'est ton destin. C'est ton destin de gitan, même. Ça veut dire que si tu vas à l'encontre de ça, il va t'arriver des bricoles.
Moi, j'étais tellement jeune qu'il y a des choses que c'est vague dans mon cerveau.
Notre histoire raconte la vie dans une ferme française.
Le coffre aux histoires vraies.
Comment on vit en 1971?
Un podcast de Globe Compteur, réalisé par Alaphonie.
Dans la vie de tous les jours, ça ne devait pas être très facile.
Le coffre aux histoires vraies, péripéties d'enfance.
Alors, moi, je voudrais parler d'un moment fort de mon enfance. Donc,
j'étais pendant l'été 99.
C'était à l'époque. Hein,
je situe ça entre 6
J'avais
et 8 ans.
Et puis,
je devais avoir 12 ans.
Dans les années 60, 58-60, j'allais en vacances à Asparin chez mes grands-parents, à Machi et à Itachi.
Il s'agit du bœuf bourguignon grand-mère. Il faut pour le réussir le respect des souvenirs familiaux et 1200 grammes de macreuse ou de gîte à la noix.
On mangeait bien, elle mettait la cloche quand c'était l'heure. Elle en oubliait quelques-uns sur la route, ils arrivaient trop tard. À toi, t'as pas mangé. C'était toujours un cousin, une cousine qui avait traîné par là et qui arrivait en retard. Et elle nous comptait pas, quoi. On prenait chacun une assiette, elle nous servait.
Souvenir d'enfant avec ma grand-mère qui habitait Quiberon et chez qui j'allais passer 80% de mes vacances.
Comme dans une colonie de vacances, parce qu'on était nombreux, et à Machi nous gâtait beaucoup.
Ma grand-mère m'emmenait, elle emmenait sa brouette.
Et deux fois par semaine, été comme hiver, on allait à la ferme à pied, toutes les deux, chercher du lait qui venait juste d'être tiré des vaches en fait.
Alors, elle est née de la place Sainte-Élisabeth avec sa brouette pour aller laver au lavoir. Et il y avait des grands-mères, ils détendaient leur linge aussi sur le bateau.
On était 9, 10, jusqu'à 12, elle n'en prenait pas plus. Sur à peu près 40 petits-enfants, elle avait.
La grand-mère, elle était là et elle s'occupait des petits-enfants. Il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de jardin d'enfants, il n'y avait rien du tout. C'était la grand-mère qui s'en occupait.
Et on partait avec des bouteilles en plastique. Et c'était un peu un chemin initiatique parce qu'en fait, elle me racontait les plantes, l'histoire, les fleurs, les oiseaux, tout ce qu'on pouvait voir.
De ce fait, il y avait une liaison très, 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 très solidaire entre les petits-enfants et la mamie. Plus que les enfants avec leur maman.
On avait une espèce de lien, toutes les deux, qui était très très fort.
S'ils font quelque chose de grave pour être punis, c'était se cacher derrière la grand-mère. S'ils sont derrière la grand-mère, personne ne peut y toucher.
Quand t'es passage, qu'est-ce qu'on te fait? On te donne une fessée?
On te donne une fessée.
C'est vrai?
Oui.
On habitait juste en face, l'arrêt des tramways, c'était le terminus du boulevard d'Albi. On habitait juste là et tous les tramways s'arrêtaient pendant un certain temps. Les chauffeurs, les wetman qu'on appelait, oui, les wetman à ce moment-là, qui allaient prendre un verre à côté en attendant leur pause.
Monsieur, on peut en avoir une tasse, nous aussi?
Ah, je regrette, mon cher monsieur. Le thé est préparé pour nos agents qui circulent toute la journée.
Et c'est du thé, mais il a une drôle d'odeur, ce thé.
Et on s'amusait à monter dans le tramway. Et c'était des tramways. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de porte. Donc on passait d'un wagon dans l'autre. Et puis, un de nos copains a eu l'idée d'appuyer sur la pédale. Et nous voilà partis. Le tramway. Il s'en va, et nous on était contents. On n'a pas été loin parce que tous les wetman qui couraient derrière, le tramway qui s'en va.
À certaines heures, le nombre de piétons au mètre carré devient soudain presque oppressant. Ce phénomène, chaque jour renouvelé, paradoxalement attire sur les trottoirs parisiens des personnages pittoresques qui trouvent dans cette concentration même l'occasion d'exercer leur petit commerce. On vend de tout sur les boulevards.
C'est un monsieur qui faisait des spectacles dans la rue ?
Oui.
Et oui, donc, oui. Il, des grenouilles vivantes ?
Oui, des grenouilles vivantes.
Et vous le voyez avaler
Ah oui,
il prenait la grenouille comme ça.
Il était comme vous et nous, là. Hein,
ah oui, on était toujours très, très près de nos premiers rangs.
C'est bien. Quand on raconte ça, nous,
mais oui, mais on a vécu ça.
Faisait le tour
du public. Je crois pour récupérer de l'argent avant de faire sa démonstration. Parce que, non, c'était entre les deux. Quand il disait, et après je vais ressortir les grenouilles. Ah, tout le monde me disait, mais je reste là, moi, pour ça. Oui, mais avant, il faisait le tour pour avoir un peu d'argent.
Sa quête, oui, quand il avait avalé ses grenouilles.
Et alors, il fallait qu'il rende les 10 litres d'eau qu'il avait bu. Alors, il faisait.
Le chenot
et les grenouilles elles sortaient. vivantes, hein. On était au premier rang, mais on n'avait jamais un rond dans la poche. Mais ça fait rien. Sous, nous. Ça fait rien, on voyait les grenouilles sortir.
Oui, pour laver 4 kilos de linge avec seulement 12 litres d'eau chaude, il vous faut bien entendu une machine à laver automatique Philips.
Ma maman lavait du linge pour des ouvriers à Fontenay-le-Comte en Vendée.
À Pornic, dans les années 74. Donc on habitait un quartier qui était en train de se monter en fait. Donc il y avait... Il y avait des maisons qui allaient se faire, mais elles étaient autour de nous, c'était des champs.
Et par contre, il n'y avait pas de machine à laver. Et à cette époque-là, les ouvriers et aussi les personnes un peu âgées du quartier venaient porter leur linge à ma mère.
Et il y avait la terre, ces terrains qui étaient à nu. Et donc avec mon frère, on prenait des seaux et on allait chercher cette terre, parce qu'on nous avait dit que c'était de la terre glaise. Et avec cette terre glaise, on pouvait en faire des pots, tout un tas de choses comme ça.
Ma mère avait ce qu'on appelait une lessiveuse. Et du coup, la lessiveuse, c'est une sorte de grande bassine un peu évasée en zinc, dans lequel elle mettait un outil un peu bizarre qui ressemblait à un champignon.
C'est vrai que c'était de la terre qui était assez collante. C'était pas une terre rouge, c'était une terre un peu beige. Et on ramenait cette terre... à la maison.
Elle mettait ça dans sa lessiveuse et là, petit à petit, l'eau chauffait, de la mousse se créait, mais surtout, par le champignon, par le haut du champignon, ressortait cette eau mousseuse qui retombait sur le linge.
Et du coup, avec mon frère, on prenait cette terre dans nos mains et on faisait des petits objets, des petits pots, des petites figurines.
Et à chaque fois que ma mère en arrivait à ce stade-là, elle me disait « viens voir » et je venais voir et je restais à regarder cette mousse qui sortait par les trous du champignon, qui tombait sur le linge et c'était éternel, ça continuait. Et moi je voyais ça, mais je me disais « mais oh, c'est magique quoi !»
Et petit à petit, tous les quartiers se sont transformés.
Quand je pense à ma mère, alors je l'ai perdue très jeune, hein, j'avais 16 ans et demi quand j'ai perdu ma maman. Si on devait me demander de décrire ma mère, je pense que c'est ce que je retiendrai le plus d'elle, ce moment où elle était une magicienne de l'eau et de la mousse.
Aujourd'hui, je pense pas trop que dans Pornic, il y ait encore des enfants qui puissent avoir la chance d'aller creuser comme ça à deux pas de chez soi.
Alors après, évidemment, la petite calore est arrivée, la petite calore qui m'a empêchée de voir le linge moussé, qui a cassé la magie, quoi. Et après, les vraies machines à laver, tout ça, sont arrivées.
C'était une autre époque.
Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Bon, il y a moins de magie, mais le rêve reste beau. Et ma maman était une belle femme qui lavait bien le linge.
«
Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le coffre aux histoires vraies, consacré aux péripéties d'enfance. Il met en scène quelques-uns des témoignages que l'association Globe Compteur et ses collecteurs récoltent depuis 2017 sur tout le territoire français et au-delà, à l'appui de nombreux partenariats locaux. L'objectif du projet ? Proposer une histoire populaire et sensible, tissant des liens entre les générations et les cultures. Dans cet épisode, vous avez pu entendre les récits de Bénédicte, auto-collectée à Quiberon, de Marie, collectée par Nathalie à Asparin dans le Pays Basque, de Nina et Janine, collectées par Marie, Bénédicte et Olivier à Nantes, de Juliette et Madeleine, collectées par Cédric à Nantes, de Betty, collectée par Cédric à Fontenay-le-Comte, de Juliette, collectée par Cédric à Nantes, de Sylvie, collectée par Axel à Pornic, de Lucie, auto-collectée à Sainte-Anne-sur-Brivet, de Kaltoum, collectée par Marie à Madia en Tunisie. Le tout enrichi de quelques extraits d'archives et des bruitages de Joseph Sardin de la sonothèque.org. Retrouvez tous les témoignages via la carte vivante sur le site globecompteur.org, un podcast du studio Alaphonie.